Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à cette quotidienne de la vie agricole. Aujourd'hui, à l'animation, M. Yannick Patelli ainsi que M. Michel Saint-Pierre. Messieurs, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour Michel et bonjour Sylvain. Bon. Sylvain Charlebois, qu'on a reçu maintenant à de multiples reprises dans notre quotidienne.
Et bonjour,
on est très,
les amis.
Très heureux de vous savoir fidèle à nous, Sylvain. On va parler aujourd'hui, entre autres, de dépopulation. C'est un texte qui m'a interpellé, que j'ai vu dans la presse, qui a été publié par Sylvain Charlebois. Sommes-nous prêts pour une dépopulation? Mais avant de parler de dépopulation, il y a une population qui ne dépeuple pas, c'est celle des porcs. Alors peut-être on va rentrer juste dans le sujet d'actualité actuellement, parce que sait que le débat a commencé dans la crise porcine. Tout le monde est un petit peu sorti sur la place publique pour dire ce qu'il en pensait. Nous, on a eu des réponses des éleveurs de porcs, de l'IMEL. L'UPA s'est attristé de tout ça. Le ministre a annoncé 240 millions de soutien au porc juste en 2022. J'aimerais ça savoir quelle est la lecture que Sylvain Charlebois fait de la crise du porc qui est une surprise plus ou moins, parce qu'il y a un an, on pressentait déjà ce qui s'en venait.
Ouais, c'est pas nécessairement une surprise. Puis je dois dire que j'appuie énormément l'équipe de gestion chez Olimel parce qu'ils l'ont pas facile. Ils l'ont pas facile. Là. C'est pas facile de gérer ce qui se passe actuellement. On a hérité d'une entreprise qui a acheté énormément, plusieurs entreprises depuis les 10-15 dernières années. Donc, il y a un bagage qui est assez lourd au niveau financier, bien sûr, d'un côté. De l'autre, il y a le marché qui change aussi en même temps. Et je pense au marché à l'exportation, là, et on doit se réajuster. Tout ça arrive en même temps. C'est une tempête parfaite pour Olimel, qui est pris un peu entre les deux. Malheureusement, pour les producteurs de porc, il y en a quoi, 2400, 2500 au Québec, là. Moi, je suis pas mal certain que c'est pas tout le monde qui va pouvoir survivre parce qu'il va falloir recalibrer la filière en fonction d'une nouvelle demande. Là. Ça, c'est clair, à mon avis. Alors, c'est bien que le MAPAC, que le gouvernement du Québec intervient pour aider, mais il faut pas trop en faire parce que moi, je pense qu'il y a probablement une surcapacité compte tenu de ce qui se passe avec le marché à travers le monde.
Il y a une épuration naturelle qui va se passer, mais est-ce qu'au final, est-ce qu'on peut déjà prédire qu'on va vers un peu plus d'intégration ou il peut y avoir une épuration faisant en sorte que disparaissent aussi certains intégrateurs et certains indépendants, ou ça c'est vraiment la fin de la ferme indépendante et on va finir par intégrer ce qui reste en fait?
Ben, en fait, non, je pense pas que c'est la fin de la ferme indépendante, mais c'est sûr qu'on va vivre un grand changement. Là. Mais je vois ça aussi comme une opportunité pour démocratiser la viande porcine. La viande porcine, à mon avis, c'est une très bonne viande. C'est une protéine qui est pas chère, qui est accessible pour beaucoup de monde, qui devrait être valorisée, qui doit continuer à être valorisée aussi. Mais il y a aussi, moi, je pense à une entreprise comme Du Breton, par exemple, qui offre un très bon produit. Vincent a été sur mon podcast il y a quelques mois, on en a parlé, puis on voit que le régime québécois ne supporte pas des produits bio comme Du Breton, par exemple. Puis je pense qu'il y a peut-être là à faire, on peut peut-être penser à comme fragmenter un peu l'offre pour satisfaire une demande qui a changé depuis quelque temps. Il y a l'ASRA qui, justement, a son modèle, mais il y a peut-être aussi une opportunité de changer tout ça un petit peu. Là je pense très loin, puis je pense très haut. Là. Mais je pense qu'il y a une opportunité de, disons, recalibrer un peu puis changer les choses un petit peu pour ce qui est de la filière porcine, parce que la filière porcine demeure une industrie archi importante et Olimel doit survivre. C'est pas compliqué, là. Olimel doit survivre, puis je serais pas surpris après Vallée-Jonction, là, je serais pas surpris de voir une autre fermeture en passant. Et voir Olimel suivre un peu la stratégie Maple Leaf d'il y a 20 ans. On a fermé un paquet d'usines à travers le Canada pour, en fait, investir à Hamilton pour le porc et à London pour le poulet. Vraiment, moi, je pense que c'est là où on s'en va avec Olimel.
Michel, un mot sur le porc?
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain. C'est pas nouveau. Et beaucoup d'industries ont connu des crises structurelles comme celle-là. Elles ont dû s'ajuster. Là, ça touche évidemment un secteur sensible, celui des producteurs eux-mêmes. Mais il y a quand même, comment dire, des moyens, une sorte de réduction, de downsizing de l'économie porcine qui devait être entreprise. Je crois que les gens sont tout à fait conscients de ça du côté de l'IMEL, qu'il y a, bon, il y a eu d'une part une croissance très rapide, comme tu mentionnais, Sylvain, même dans les 5 dernières années, j'ajouterais 10, oh, oui, ouais. Mais dans les 5 dernières, ça déboulait, là, littéralement, là, surtout, ouais, surtout avec l'acquisition de Ménard, par exemple, ben là, ça complétait
Ménard, le bouquet. Pinties, Blue Sky, oui, c'est absolument incroyable.
Donc, c'est beaucoup, je regardais l'autre jour sur leur site, d'ailleurs, toutes les acquisitions qui ont été faites là, depuis. Donc, c'est beaucoup d'investissement qui s'est fait sur une courte période de temps, et là arrive une réduction du marché mondial. Bon, la demande mondiale sur laquelle on comptait beaucoup. C'est pour ça que je dis, c'est pas la première fois qu'un secteur doit vivre cette situation-là. On en parle davantage à cause du côté sensible, mais il y a quand même des moyens d'y arriver. Et puis, je suis d'accord aussi sur une chose, on doit absolument protéger ces entreprises-là. Quand on parle, je parle de l'IMEL, je parle aussi des grandes coopératives d'agro-pure qui a vécu il n'y a pas si longtemps aussi un autre problème. C'est nos champions, d'expression qu'on utilise beaucoup plus en milieu anglophone. Ce sont des entreprises qui ont été, qui ont été la réponse à la révolution économique qu'a connue le Québec à partir des années 60, surtout. Ouais. Elles ont été coopératives, on n'avait pas de grandes fortunes comme les anglophones en avaient, et la réponse, elle était coopérative, et on a créé ces grandes entreprises-là. Il faut plutôt les protéger et les sauver que tirer à boulet rouge, comme ouais, souvent on voit.
Ben, Yannick Gervais était sur mon podcast, je pense que c'était en novembre. On a évité un peu, moi j'avais une idée de ce qui se passait, là, mais c'est sûr qu'il y avait parlé de problèmes de main-d'œuvre, d'une réorientation quelconque sur notre podcast, puis on voyait ça venir, là, on voyait que Yannick reconnaissait qu'il y avait des choses à régler. Là. Puis donc, je suis pas surpris de voir ce qui se passe. Moi, je dois dire que Yannick et son équipe ont énormément de courage. Il doit dormir difficilement ces temps-ci, je dois dire. Ben, c'est pas facile de faire ce qu'il fait là, mais il doit le faire. Sinon, l'humain ne survivra pas.
Mais après, il va falloir se souvenir aussi que il y a des changements à faire dans notre mode de soutien, surtout à l'agriculture.
Absolument.
Je pense qu'il va falloir amener un modèle qui est beaucoup plus sensible aux signaux du marché, ce qui n'était pas le cas au Québec. Au Québec, on était un peu insensible à ça. Il y avait un soutien, il était universel, mais en tout cas, il était extrêmement important dans ce secteur-là.
Ben, Michel, écoute, la moitié de nos porcs, on les exportait. Ben oui. Là, c'est plus, ça ne sera plus la même fraction.
Non, ça
ne
sera plus ça.
Alors justement, après la surpopulation du porc, venons quand même au sujet central du texte que tu avais écrit, qui n'a rien à voir avec le secteur du porc, rien à voir avec Olimel.
C'était plutôt...
on parle d'impact dans les épiceries, effectivement, on va peut-être faire la boucle. Mais simplement, en fait, c'est ça, dans le texte que tu as appelé « Sommes-nous prêts pour la dépopulation », tu notais notamment que le Québec est en dépopulation, le Canada vise quand même 40 millions d'habitants dans peu de temps.
Alors c'est fait, je pense.
Je pense qu'on a 39 en juin. On est à 4,3% de population en augmentation à l'île du Prince-Édouard, 3,7 en Alberta, si je ne me trompe, etc. Il y a comme un débalancement actuellement qui se fait au Canada. On est la seule province en fait un peu en retard, c'est ce que je comprends.
Ben en fait, au Québec, c'est drôle parce que dans la presse la semaine passée, mon texte était le plus lu dans la section affaires. Puis le deuxième texte le plus lu est en lien au taux de natalité du Québec qui est en baisse, net baisse depuis 20 ans. C'est un peu ça qui se passe, là. Mon texte l'explique un peu, là. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de démographes qui pensent que la Terre n'atteindra jamais 9 milliards de population. Simplement parce que 80% des pays n'atteint pas le taux de remplacement, le fameux 2.0. Là. Ouais. Et puis, notre population, en fait, augmente essentiellement en raison de l'immigration. On le sait tous.
Et plus lentement au Québec, d'ailleurs, de ce côté-là.
Oui, mais au Québec, c'est taux le plus bas.
C'est ça.
Ouais, c'est le taux le plus bas. Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression que c'est dû au fait,
Québec, on est plus bas en natalité et plus bas en immigration.
Ouais, c'est un peu le danger. Le danger, c'est que notre part, notre poids relatif sur l'échiquier canadien est en diminution constante. Comme on a des réserves, en tout cas des restrictions au niveau de l'immigration, bien, ça va continuer. Là. Pas nécessaire d'être un démographe génial pour constater que ça va continuer. Si notre taux de natalité est aussi bas que ça et qu'on restreint par rapport à d'autres les entrées de l'extérieur, bien là, force est de constater qu'on ne peut pas...
Les Nations Unies, depuis quelques années, signalaient que la plus grande menace à notre environnement, c'était justement la surpopulation et le fait qu'on a trop d'enfants. C'est-à-dire qu'on fait trop d'enfants. Pour ce qui est de l'Occident, là, je parle. Là. Puis même pour ce qui est des pays en voie de développement, un taux de natalité de 5-6, c'était plus.
Oui, mais d'ailleurs, Sylvain, ça a toujours été d'ailleurs un petit peu le leitmotiv de la production en agriculture, en agroalimentaire. On a beaucoup dit faut produire pour nourrir la planète. Il y avait toujours ce faut produire pour nourrir la planète. Mais là, on se rend compte. C'est comme un équilibre qui est en train de se faire actuellement.
C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que, tu sais, moi, le fait que les femmes ont plus d'enfants, au moins d'enfants, c'est correct, là, mais il faut planifier en conséquence. Puis, c'est pas juste l'alimentation. Il faut penser au fonds de pension, il faut penser à un paquet d'affaires. Mais pour ce qui est de l'alimentation comme telle, moi, tu sais, le discours, par exemple, de l'Union des producteurs agricoles, pour moi, ça reflète pas la réalité démographique de demain. On oriente très mal nos politiques au Québec et même au Canada par rapport au territoire agricole, par exemple, à la relève aussi. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre territoire? Puis il y a aussi le changement. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé du changement au niveau de la protéine. Qu'est-ce qui va se consommer dans 10, 15, 20 ans? Mm-hmm. Fait que, tout ça fait en sorte que la ruralité pourrait être délaissé de plus en plus parce qu'avec moins de monde, et c'est sûr que les gens vont se réorienter vers les villes comme on l'a vu depuis 30 ans. Qu'est-ce qui va se passer avec l'agriculture? Qu'est-ce qui va se passer avec les producteurs? Qui va s'occuper de nous nourrir et tout ça? Alors, moi, dans le fond, je voulais pas sonner une alarme là, la semaine passée avec mon texte, mais j'ai eu beaucoup de commentaires sur le texte parce que depuis des années, on entend parler d'un problème de surpopulation. Puis moi, j'arrive avec un autre problème, c'est qu'il va manquer de monde. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que des compagnies comme Olimel, parce que la prémisse de base de la fermeture à Vallée-Jonction, c'était le manque de main-d'œuvre. Mais le manque de main-d'œuvre, là, c'est pas fini. Là. C'est pas un problème qui va disparaître demain. Là. On en a pour encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Là.
Mm-hmm. Ouais. Mais cette dépopulation-là, où est-ce que c'est le terme qui était...
Oui, dépopulation.
Dépopulation.
C'est dans le titre. En tout cas, sommes-nous prêts pour une dépopulation?
Je cherchais, c'était décroissance de la population. La dépopulation.
Moi, je suis un chercheur, fait que je peux inventer des mots de fois de temps en temps.
c'est dans un horizon de combien de temps qu'on peut véritablement sentir que ça va être la réalité.
Oui, bien selon les démographes, là, on parle d'un horizon de 20 à 25 ans, là. Ouais, à peu près. Fait que c'est en dedans d'une génération, là. Fait que c'est pas si loin que
non,
ça.
C'est pas si loin que ça, non.
C'est pas si loin que ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut commencer à y penser maintenant. C'est pas juste moi qui le dis.
Est-ce que ça peut entraîner des choix différents politiques? Parce que Michel disait tout à l'heure, bon, manque de natalité au Québec, manque d'immigration, il y a des choix. Enfin, manque de natalité, c'est parce que les gens veulent plus forcément faire autant d'enfants qu'avant. Manque d'immigration, c'est parce qu'on fait des choix politiques pour qu'il y ait moins d'immigration. Est-ce que c'est cette situation mise en avant par toi, par des chercheurs, par des démographes, peut faire en sorte que les décisions politiques vont faire en sorte qu'il va y avoir un changement radical pour que le Québec, au moins, ne prenne pas le retard qu'il prend sur les autres provinces?
Ben, tu sais, c'est parce qu'on a besoin d'un changement de paradigme. À chaque fois que vous avez un politicien à votre émission ou n'importe qui à votre émission, on parle de quoi? On parle de croissance. On vante les vertus de la croissance. On démontre toujours que les ventes sont en hausse, les revenus sont en hausse, les profits sont en hausse. On parle toujours de hausse. On parle jamais de décroissance. C'est jamais, là. Mm-hmm. C'est pas dans notre discours naturel non, de non, parler non. de décroissance et de valoriser
c'est
une
jeune gestion.
Mais ça, c'est pas vendeur. C'est parce qu'il faut. Monsieur le ministre Lamontagne fait la même chose. Lorsqu'il est sur une tribune, il va toujours parler de croissance. Il faut qu'il parle que son secteur, le secteur agricole, vend plus, exporte plus, tout ça. Mais il va falloir commencer à changer le discours tranquillement, pas vite, pour les 10 prochaines années ou les 15 prochaines années, à mon avis, et de dire, ben voilà, voici ce qu'il faut faire, et peut-être qu'on devrait faire les choses autrement.
Si, il y a certainement...
Sylvain, moi, Michel, je vous arrête, une courte pause, fini. On est à 15 minutes 42, on revient tout de suite.
On se
Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Les boulangeries Première Moisson vous invitent à découvrir leur grande variété de pains mettant en vedette les blés du Québec issus de l'agriculture raisonnée, laquelle est basée sur le respect du grain et de la terre. Toujours frais du jour et confectionné par des artisans boulangers, Première Moisson, une entreprise 100% québécoise.
Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
Bonjour et bon retour dans la quotidienne. Nous sommes aujourd'hui avec Sylvain Charlebois, chercheur à Dalhousie. Vous le connaissez bien. On parlait pendant les publicités avec Michel qui s'inquiétait du débalancement. On parlait tout à l'heure du débalancement entre Québec et les autres provinces. Et Michel soulignait un point intéressant. Je te laisse exposer, Michel.
Bien, on parle de culture québécoise. Et ce matin, je lisais dans la presse Marie-France Bazot qui soulevait une question importante. La jeune génération n'a plus de télévision, n'en veut plus. Donc, écoute des choses de façon très sélective, alors que la culture, la nation québécoise, elle s'est faite en grande partie autour d'un média que les gens partageaient, du fait que les gens lisaient ou écoutaient la même télévision, et tout ça. Mis ça à côté des données que Sylvain, tu viens de nous mentionner, le fait qu'effectivement, on est en perte de poids relatif aussi, tout ça m'inquiète. Je devrais pas être aussi inquiet parce que je suis plus âgé puis je verrai pas la fin de l'histoire, mais il reste que ça m'inquiète quand même.
Est-ce que ça veut dire que la génération Netflix, qui est très ouverte sur le monde, complètement, enfin, est déconnectée certes d'une certaine réalité du Québec, mais est-ce que c'est pas le Québec aussi qui est déconnecté de la réalité de ces jeunes qui sont des internationaux, qui ne sont plus centrés juste sur une province?
Elle n'est pas frontalière. Cette génération-là n'a plus la frontière que nous, on avait. Depuis, elle n'a plus de... elle n'a pas un espace. On est loin de l'époque de la revanche des berceaux où on disait que le Québec doit sauver par une grande natalité, ce qui a fait, de fait, avec un baby boomer extraordinaire. Mais là, c'est vrai, l'expression est complètement, je pense, partie. Il n'y a plus grand monde qui sait ce que ça veut dire. Mais à l'époque, des années 40, après-guerre, c'était la revanche des berceaux pour sauver le poids démographique du Québec en Amérique du Nord. Et on a fait beaucoup d'enfants pendant cette période.
On peut dire que Sylvain a fait sa part. Je crois savoir, Sylvain, t'as quatre enfants. Sylvain a quatre enfants.
On a quatre, effectivement.
Bravo.
Mais c'est sûr qu'il y en a un qui est né au Québec, les autres sont nés ailleurs. Mais en gros, je dois dire qu'il y a un clash de générations, à mon avis. C'est sûr que nous, on le voit dans nos statistiques au laboratoire, c'est que les jeunes... Puis quand on parle de jeunes, on parle de milléniaux et de la génération X. Ils ont 42 ans au moins. Eux, ils voient le monde de façon complètement différente. Ça, c'est clair. Ils consomment l'information différemment. Ils consomment de la nourriture différemment. Ou du moins, les valeurs qu'ils recherchent en alimentation sont différentes. Ça, on le voit beaucoup. Demain, dans la presse, mon prochain texte, ça va être sur les ventes alimentaires au Québec et au Canada qui stagnent. Je ne sais pas si vous saviez, là, mais on a regardé les données de Statistique Canada. Et malgré l'augmentation démographique d'un million au Canada depuis un an, les ventes demeurent les mêmes. Autrement dit, le consommateur dépense autant d'argent... en obtient sûrement moins parce qu'avec l'inflation à 10%, on obtient moins. Donc, on voit qu'un consommateur consomme différemment.
Mais là, tu me surprends, Sylvain, parce que dans le premier texte, le texte de la semaine dernière, moi, j'avais retenu le fait qu'on pouvait avoir espoir, que c'était parce que j'essayais de trouver quelque chose de positif dans tout ce qu'on dit depuis une demi-heure. Tu disais la semaine dernière qu'avec le 1 million de bouches de plus à nourrir, les 40 millions de personnes que nous serons au Canada bientôt, que ça pouvait représenter un montant de 3,5, 3,6 milliards de plus. En fait, c'est ça, c'est si la tendance se maintenait, si les gens continuaient de consommer de la même façon. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que ce n'est pas nécessairement ce qui se passe.
Ben, c'est parce que, oui, l'évolution démographique, on en parle depuis tantôt, mais il y a aussi l'inflation et l'économie. Donc, il y a deux choses qui sont importantes quand on évalue l'économie. La santé de l'économie, c'est un, l'inflation, puis on le voit actuellement. L'inflation force les consommateurs à consommer différemment. Et l'autre chose qui ne nous a pas frappé encore, qui pourrait nous frapper plus tard, cette année, l'année prochaine, c'est le manque d'emploi. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Il y a de plus en plus de mises à pied. Ça va nous rattraper. Je pense que le chômage ou le manque d'emploi pourrait nous affecter là, dans les villes, là, je parle. Donc, c'est pour ça que, tu sais, on a été un peu choyé jusqu'à maintenant, mais d'ici quelques mois, là, ça va être encore plus difficile, à mon avis, pour la filière de En fait, on revit un peu ce qu'on a vécu durant les années 80 là, pour ce qui est de la consommation. On a déjà passé à travers, puis après, en sortant des années 80, on a vu là un marché qui était beaucoup plus fragmenté et sélectif aussi en même temps. Donc, c'est pas tout à fait mauvais là, ce qui se passe. C'est juste qu'il y a un recul actuellement, c'est sûr, pour ce qui est de la consommation.
Alors, dans les points positifs de la chronique de la semaine dernière, il en reste un. On va essayer de le garder positif, celui-là. On a tous plus de chiens et plus de chats. Puis là, tu disais que finalement, ça, c'était bon pour l'agroalimentaire. Ben, ça change la façon d'organiser l'agroalimentaire. Mais en gros, l'agroalimentaire va travailler un peu moins pour les humains et un peu plus pour nos animaux domestiques.
Voilà. Ben, avec 16 millions d'animaux domestiques, c'est sûr, tu sais, quand je parle aux producteurs de bovins, par exemple, de porc, de poulet, tu sais, on le sait, là, quand le discours agricole s'urbanise, les gens s'attendent à ce que les producteurs agricoles traitent leurs animaux comme des animaux de compagnie. On voit que les valeurs se transfère mentalement là, dans la tête des consommateurs. On le voit aussi avec le débat du glyphosate. Vous en avez parlé souvent durant vos émissions. T'sais, le discours par rapport aux pesticides puis tout ça, ben, les groupes d'intérêt anti-Monsanto de ce monde là, ont vraiment été extrêmement efficaces parce qu'ils ont urbanisé le discours en allant chercher les échevins, les conseils de ville et de forcer les conseils de regarder les gazons des gens dans les villes. Et là, tout d'un coup, les gens disent « Ben, si c'est mauvais pour mon gazon, c'est pas bon pour la nourriture que je mange en campagne. » C'est un peu ça qui va se passer au niveau des animaux aussi, à mon avis, à long terme. Alors, c'est pour ça que, d'un côté, il va y avoir une orientation, ce qui n'est pas mauvais, mais d'un autre côté, ce qui m'inquiète le plus, c'est la communication du risque et le clivage qui agrandit entre le monde rural et le monde urbain.
Oui, effectivement. Michel. Et je pense que le transfert d'évaluation du monde animal, en fait, de l'animal vers la campagne, se fait déjà actuellement. Là. Il y a ailleurs, certains pays sont plus avancés, mais nos modes d'élevage changent. On veut s'assurer que ces animaux-là sont bien traités. Donc, le mode, par exemple, d'élevage laitier au Québec a été drôlement questionné ces dernières années. On parlait pas de ça il y a 10 ans, là. On parlait pas des vaches attachées qui passaient leur vie presque dans l'étable. Ouais. Aujourd'hui, on en parle et on veut plus que ce soit comme ça. Donc, il y a un changement, il y a un passage, effectivement, entre notre petit animal et l'animal de la ferme qui produit du lait ou qui produit de la viande. Et on veut qu'il soit traité. C'est la même chose pour les cages de gestation détruites. C'est la même chose pour les poules en liberté, soit entre guillemets liberté, parce qu'elles ont une liberté très, très limitée. Mais il reste qu'elles ne sont pas tassées à 20 dans une petite cage. Alors, bon. Mais tout ça, à mon avis, c'est un petit peu ce que mentionnait Yannick, la suite de la transposition entre notre évaluation du règne animal en ville avec le petit chien ou le petit chat. Et moi, c'est des chats chez nous. Alors, et du côté animal, mais c'est la même chose. Mais je m'aperçois, parce que pour être allé tellement souvent sur des fermes, que ce transfert-là n'était pas encore fait, parce que même les chats dans l'étable avaient une fonction. Ils n'étaient pas là pour le bon plaisir, ils étaient là pour gérer les souris les dans l'étable.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc, il y avait une fonction.
Ouais, il y avait une fonction. Ouais.
Il y avait une fonction. Puis le chien, il y avait aussi comme fonction de. Il était l'alerte. Il était.
Un gardien.
Un gardien, c'est celui qui est un peu comme une sirène, venait dire il y a un danger quelque part. Alors, c'était fonctionnel. Je pense que ça évolue, là. Ça change là aussi.
Ce qui risque d'arriver, puis je vais offrir à Yannick la bonne nouvelle de la journée, là. La bonne nouvelle LVA et non pas TVA, c'est que moi j'ai l'impression qu'avec ces exigences-là, ces attentes-là, on va faire en sorte qu'on va, oui, les coûts de production vont augmenter avec les années, mais en même temps, on va probablement valoriser davantage la nourriture que maintenant. On le voit déjà avec l'inflation, là, nous, on le remarque, les gens gaspillent moins, les gens font plus attention lorsqu'ils dépensent de l'argent. On fait plus attention. Moi, j'ai l'impression que ça ne nous quittera pas, ça va simplement que continuer en raison de la dépopulation et en raison des attentes des urbains, des gens qui vivent en ville, qui vont imposer leurs valeurs à l'agriculture moderne, à mon avis.
Puis un retour aussi à l'achat au quotidien de ce qu'on veut manger. Ouais. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais petit. Bon, l'achat, c'était le vendredi avec des gros paniers, des
pistolets. Ah oui, hein, exactement. C'est ça, ben oui, je m'en souviens de ça.
Ouais. Et aujourd'hui, on est au quotidien, littéralement.
Ouais. Michel, Sylvain, merci beaucoup. C'est tout le temps qui reste aujourd'hui pour la quotidienne. À très bientôt, vous
deux. Merci, Sylvain. À bientôt.
Au revoir.